Mettre en image ludique et attrayante la lutte contre l'évasion fiscale, ce n'était pas une chose tellement évidente a priori. Et pourtant, le pari a été tenu avec quelques accessoires rudimentaires, des chaises. Fournir les images à l'impératif moral d'un accueil humain des migrants est a priori une chose plus facile, sauf que ça risque de vous amener devant les tribunaux. Mais après tout, peut-être qu'un bon procès peut aussi être une image efficace. Ce sont deux citoyens, les auteurs de ces deux images, de désobéissance civile que nous recevons aujourd'hui, Anne-Sophie.
Oui, avec vous, John Palais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes militant de l'association Bizi, une association basque qui est à l'origine du mouvement Alternatiba, qui est engagé pour le climat. Et vous êtes ce qu'on appelle un faucheur de chaises. Autrement dit, afin de dénoncer l'évasion fiscale, vous empruntez des chaises dans des agences des grandes banques, dont la HSBC, et puis votre cible préférée, la BNP Paribas. Et c'est cette dernière qui a fini par porter plainte contre vous. Alors, le procès s'est tenu à Dax le 9 janvier dernier. C'est un procès que nous avons couvert et nous avons été entourés par tous les médias nationaux qui avaient fait le déplacement et qui s'est plutôt bien terminé puisque lundi 23 février, lundi de cette semaine, nous avons appris que vous avez été relaxé.
23 janvier.
23 janvier, j'ai dit quoi ?
Février.
Février, ouais, j'ai toujours un mois d'avance. Et alors, notre deuxième invité, Cédric Héroux, bonjour.
Bonjour,
vous êtes en direct de la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, une vallée qui a attiré elle aussi l'œil des médias depuis que vous et les membres de l'association Roya Citoyenne venez en aide aux migrants qui passent la frontière italienne et se retrouvent dans votre village, Breil-sur-Roya, à quelques kilomètres de Vintimille, situé en Italie. Alors vous êtes aujourd'hui accusé pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour de personnes en situation irrégulière. Votre procès s'est tenu à Nice le 4 janvier et le jugement est attendu, lui, pour le 10 février. Pour le coup. Voilà. Alors, les médias ont commencé à focaliser cet automne sur la vallée de la Roya, la vallée rebelle, comme le dit Libération. Et parmi les premiers sujets qui vous concernent, Cédric Héroux, nous avons déniché un reportage de France 3 qui était diffusé le 12 octobre où l'on vous voit en pleine action dans une scène vraiment surprenante.
Lucille et Cédric ont ouvert leur ferme en grand à tous ces jeunes migrants qu'ils trouvent perdus dans leur champ d'olivier. Le temps qu'ils prennent un peu de repos et soignent les blessures d'une route dangereuse avant de repartir.
Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec mon action. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est-à-dire dire non, tu ne viens pas chez moi, tu vas errer dans les rues du village. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas ennuyé par la police et la justice. C'est qu'on fait un travail qui a son utilité.
Peu à peu, l'agriculteur est devenu l'avocat des étrangers. Quand il apprend que des militaires ont arrêté deux jeunes à l'entrée du village, sans la présence obligatoire d'un gendarme, il intervient résolument.
Association Roya Citoyenne.
Et il les emmène.
Association Roya Citoyenne.
Allez, au revoir, bonne journée. S'il vous plaît, pas d'image, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Alors, Cédric Héroux, c'est vrai que c'est une image absolument incroyable. Elle a été tournée dans quelles conditions ?
Un peu par hasard, en fait. En fait, il y avait un reportage de France 3 national. Et puis, moi, j'étais sur le marché. Mon père est allé sur mon exploitation agricole chercher des œufs qui manquaient pour mon marché. Et puis, il m'a appelé. Il m'a dit, il y a deux gamins qui sont fait arrêter par l'opération Sentinelle. En fait, c'est des militaires et qui n'ont pas le droit d'agir sans qu'il y ait d'OPJ, d'officier de police judiciaire. Ce ne sont pas des gendarmes, ce ne sont pas des policiers, ce sont des militaires qui sont là pour de l'antiterrorisme. Et ils se permettent un peu beaucoup de choses sans ne respectant pas le droit de ces gens qui arrivent dans la vallée de la Roya. C'était des mineurs, donc ils n'avaient aucun droit à les arrêter ou à les reconduire en Italie. Donc je les ai pris, je les ai ramenés chez moi. J'ai appelé par la suite l'aide sociale à l'enfance, donc c'est l'ancienne DAS. C'est le conseil départemental des Alpes-Maritimes qui gère plus ou moins la situation des mineurs isolés. Et ils ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, donc du coup.
Et ça arrive régulièrement que comme ça vous alliez récupérer des migrants, mineurs ou pas d'ailleurs, qui sont entre les mains de militaires de l'opération Sentinelle ?
Non, mais c'est vrai que depuis on les voit plus trop souvent dans la Roya, ils sont plus dans la vallée qui est à côté, la vallée de Sospel, Bévéra. Non, ça n'arrive pas souvent.
D'accord. Donc, c'est l'équipe de France 3 qui a vraiment eu la chance d'arriver à tomber sur cette scène, qui montre bien la finesse de la limite entre ce qui est autorisé, ce qui est interdit, et qui montre accessoirement que ces militaires savent parfaitement qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font, puisqu'ils vous laissent les reprendre sans opposer aucune résistance, et même dans une certaine bonhomie, j'ai l'impression.
Oui, mais il y a l'effet média, l'effet caméra. Et c'est un outil, ça peut être une arme qui fait peur. Et c'est vrai que les actions qu'on fait, on utilise des médias pour s'en servir comme porte-voix et puis pour se protéger, parce que c'est beaucoup plus simple de travailler avec des médias quand ils sont là, en fait. C'est moins de violence et moins d'agressivité.
Vous avez d'autres exemples comme ça de choses qui se soient bien passées parce que vous étiez avec une équipe de télé ou avec des journalistes ?
Le squat qu'on a ouvert, les Lucioles, c'était un bâtiment de la SNCF qui était désaffecté depuis quasiment 20 ans. Et on avait beaucoup de monde. Moi, j'avais 60 personnes sur mon exploitation agricole. Il commençait à pleuvoir. La situation devenait délicate, en fait, pour l'hébergement. Et du coup, on s'est réunis à plusieurs associations. On a monté un collectif. Donc, il y a Médecins du Monde, RESF, des CIMAD, enfin, j'en passe. Et on a décidé donc d'ouvrir un lieu. Et grâce à la médiatisation, l'évacuation s'est bien passée. Donc, on est resté 4 jours sur place. Les mineurs ont été pris en charge. Donc, s'il n'y avait pas les médias, les mineurs auraient été reconduits en Italie. Et voilà, ça aurait été moins pacifiste comme action.
Alors, je crois qu'on a un extrait, Anne-Sophie, justement de cet épisode.
Oui, parce que vous l'avez dit, ça a duré 4 jours. Et par chance, les équipes de BFM TV étaient présentes et ont tourné un reportage. C'était le 25 octobre dernier.
Cédric Héroux est la figure médiatique de ce mouvement. Cet agriculteur, filmé ici début octobre, aide régulièrement des migrants à sortir de la vallée avec son minibus, financé par des dons d'habitants de la région. Cédric héberge lui aussi régulièrement des migrants. Mais quand plusieurs dizaines sont arrivées une même nuit dans la vallée, lui et d'autres militants ont décidé d'investir un lieu pour recueillir ces étrangers de passage. Il s'agit de cette ancienne colonie de vacances, désaffectée depuis une dizaine d'années.
On avait dit qu'on mettait de l'huile d'olive dedans, ça m'aurait bien arrangé.
Tout cela sous l'œil des gendarmes, ce qui ne semble pas inquiéter Cédric.
Moi, je vois quelqu'un en difficulté, je l'aide. Hein. Il est ses papiers, ok, il a ses papiers. Hein. Ça me semble aberrant en fait que ça soit illégal. Mais après, s'ils veulent un procès, c'est quand ils veulent. Hein. Quand ils veulent. Hein. S'ils veulent m'attraper, là, ils savent ce que je fais. Je revendique devant les caméras, j'en parle, je dis que je passe, j'accueille, j'aide, qui viennent, qui me prennent, et on va devant un juge, on en discute.
Le lendemain de cette interview, 48 heures après son ouverture, l'ancienne colonie de vacances est évacuée.
Alors voilà, le lendemain, le lieu est évacué. Alors bon, c'est vrai que les images peuvent paraître très favorables pour vous. Hein. Je veux dire, dans le premier extrait, on vous voyait en train de soigner les blessures de migrants. Là, on voit cette cantine qui est ouverte. Et l'action de voilà, c'est le dîner. Tout se passe très bien et c'est super. Mais en même temps, est-ce que ce type de reportage peut pas être à double tranchant, puisque c'est un peu après cet épisode-là que la justice a commencé à vous embêter, alors que jusque-là ils vous avaient laissé tranquille?
C'est pas exactement ça. En fait, ils ont commencé l'enquête après le 4 octobre, après l'apparition de l'article du New York Times. Et en fait, ce qu'ils voulaient, c'est de m'arrêter pour du passage aux frontières en flagrant délit. Ils n'ont pas trop eu le temps de le faire, du fait en fait de l'ouverture du squat, et donc ils m'ont arrêté là. Et le premier chef d'inculpation, ce n'était pas l'ouverture du squat, donc le jour de l'arrestation, c'était le passage aux frontières.
Ah oui, mais alors, ce qui a été déterminant dans le fait que la justice vous poursuive, c'est ça, c'est quand même un reportage. C'est ce reportage, non pas de BFM, mais du New York Times. C'est ça qui a énervé le procureur, de ce que j'ai cru comprendre.
C'est ça, il y a eu une lettre ouverte en fait, de la part de M. Ciotti, qui est président du département des Alpes-Maritimes, et député, et M. Esposi, le président du conseil régional, qui a alerté donc, le procureur de mes agissements, parce que je m'étais fait arrêter une première fois avant, et en début août, et en fait j'avais eu un sans-suite pour immunité humanitaire.
Un classement sans-suite, oui.
Voilà, et du coup, Ciotti et Esposi, en fait, ont alerté le garde des Sceaux et le procureur, et donc ça a commencé à médiatiser, en fait.
C'est intéressant sur les interactions de la justice et de la politique, parce qu'on vous arrête une première fois, c'est classé sans suite, alors vous dites pour exemption humanitaire, alors bon, légalement, ça veut dire que théoriquement, ce que vous faites est illégal, sauf si il y a ce qu'on appelle une exemption humanitaire, c'est-à-dire vous pouvez établir que vous apportez des soins ou de la nourriture aux migrants, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça, mais c'est bien pire que ça, en fait, c'est que la première arrestation, donc qui n'était pas du tout médiatisée, je me cachais pour faire mes actions parce que j'avais peur de la prison et j'étais pas très confiant sur un point de vue juridique de ce que je faisais. Donc je me suis fait arrêter. Le procureur, en fait, j'ai fait 48 heures de garde à vue. Le procureur, la dernière question, c'était pourquoi je n'avais pas de véhicule associatif, pourquoi je n'achetais pas un véhicule plus gros, plus adapté au transport de personnes et pourquoi mes actions n'étaient pas dans un cadre associatif. Donc moi, je suis sorti de cette garde à vue, j'ai acheté un camion, j'ai fait l'avance avec mon parent personnel pour acheter un camion à 9 places. J'ai cherché une association qui voulait bien prendre en compte donc mes actions. Et donc moi, j'ai peut-être compris de travers ce que me disait le procureur. J'ai essayé de faire le mieux que je peux. Et la médiatisation, surtout, c'est pour donner de la transparence à mes actions, parce qu'on n'est pas clandestin, je suis pas honteux de faire ce que je fais. C'est important de le faire, donc du coup, médiatisation. Ouais.
Voilà. Non, mais on va revenir sur vos motivations, effectivement, qui sont intéressantes. Mais donc, le procureur classe sans suite jusqu'au moment donc, de cette interview du New York Times, qui est lue par les politiques de la région, Estrosi et Ciotti, lesquels donc actionnent le procureur, et c'est là où la justice va véritablement décider de vous poursuivre.
Oui, c'est ça.
Voilà. Ben, fallait pas donner une interview au New York Times, hein.
Non, c'est vrai.
Vous l'avez rencontré comment, ce journaliste, ce correspondant du New York Times en France? C'est lui qui est venu vous voir?
Oui, c'est lui qui est venu me voir. Et puis, il devait rester une journée, il est resté 3 jours à la maison. On s'est bien entendu. Et j'étais assez surpris, en fait, de voir l'article qui a quand même fait la une. Et lui a été assez surpris, en fait, des conditions de ces personnes qui arrivent dans la Roya. Et assez choqué, quoi. Et donc, du coup, il a voulu vraiment nous appuyer en sortant cet article.
Qui est objet. Et vous avez eu vent de ses motivations à lui? Comment il vous a trouvé? Comment il a entendu parler de vous, de vos actions?
Parce qu'en France... Il y a des attachés de presse dans l'association Roya Citoyenne, c'est eux qui s'en occupent, donc je ne sais pas.
D'accord. Trop,
Il y a des attachés de presse efficaces, c'est formidable. Alors, sur le jeu avec les médias, les avantages pour une action humanitaire et militante comme la vôtre et les inconvénients éventuels, on y reviendra, mais je voudrais qu'on voit un peu le deuxième exemple, le vôtre, John Palais. Alors, à la base, il y a aussi une action spectaculaire et médiatique, si on peut regarder, Anne-Sophie.
Oui, c'est un mode un peu opératoire, hein, parce que comme je le disais en introduction, vous empruntez des chaises dans des agences des banques, dont celle de la BNP, et c'est vrai que c'est peu dire que ce mode opératoire a beaucoup plu aux médias, et notamment aux journalistes de la nouvelle édition de Canal+, et ce, dès avril 2015.
Il y a le modèle Sky, structure métallique, et le modèle imitation bois, version pivotante. Ces deux chaises viennent de deux banques différentes. Le Sky, c'est la HSBC, accusée d'exil fiscal. Le Faubois, c'est la BNP qui a des filiales dans les paradis fiscaux. Des chaises pour dire non aux pratiques douteuses des banques. Tout commence il y a 2 mois à Bayonne avec une association écolo. Le scandale SwissLeaks vient d'éclater. La HSBC devrait au fisc français 2,5 milliards d'euros. C'est là que le leader de cette association a l'idée des chaises.
Chaque fois, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Et nous, on dit, ben oui, l'argent, il existe. L'argent de la transition écologique et sociale, il existe. Il est dans les paradis fiscaux.
Depuis, d'autres associations altermondialistes ont renouvelé l'expérience. Et les chaises se mettent à voyager. Ici, pendant une manif de droit au logement. Là, c'est à la Confédération paysanne. Et là, pendant le défilé, jeudi dernier, contre l'austérité.
C'est vrai que c'est rigolo, le coup des chaises. Ça plaît aux caméras, ça fait de l'image. Comment cette idée-là spécifique est venue ?
Elle est venue, on n'a pas cherché l'idée en fait. Elle est venue en réaction quand a éclaté le scandale de la HSBC. Il y a eu spontanément l'idée de faire un parallèle et de leur prendre quelque chose pour montrer qu'en fait, eux nous prenaient quelque chose.
Pourquoi les chaises ?
Les chaises parce que techniquement c'est facile à prendre dans une agence. Et c'était important aussi que ce soit un objet qui ait une valeur matérielle très faible et dérisoire.
C'est vrai, plus que des sacs de billets, oui. Enfin,
Mais voilà. Non, ça, c'était important. Et puis, c'est un objet aussi populaire. Tout le monde a des chaises. Et je pense que ça joue aussi sur l'effet comique de l'action. Et puis, en fait, cette action, elle pose d'emblée un dilemme à la banque, qui est qu'elle va être ennuyée de se laisser faire, parce qu'évidemment c'est suspect. Si on laisse les gens prendre notre mobilier, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Et puis en plus, ça risque de faire effet boule de neige, puisque si les gens se croient autorisés à rentrer dans les banques et à prendre des chaises, ça peut prendre de l'ampleur. Donc ça, c'est une mauvaise, une mauvaise solution pour la banque. Et en même temps, de vouloir intervenir de manière offensive, de porter plainte, d'attaquer en justice, évidemment, ils sentent tout de suite que c'est ridicule, puisqu'au moment où ils sont accusés d'avoir aidé à détourner des milliards d'euros, de porter plainte pour quelques chaises, personne ne va comprendre et tout le monde va trouver ça disproportionné.
Non, mais c'est bien pour ça que l'idée est absolument géniale, mais ce qui montre que vous aviez réfléchi avec un ou deux ou trois coups d'avance à la réaction de l'adversaire, c'est ce que vous nous dites là.
Dès le départ, on avait conscience du dilemme que ça allait poser à l'adversaire et aussi de la pédagogie que ça allait permettre sur un sujet qui est effectivement technique, autant le sujet du changement climatique et de la transition écologique que le sujet de l'évasion fiscale. Et nous qui bataillons pour le climat, c'est quotidiennement qu'on voit cette difficulté d'expliquer à quel endroit de l'histoire de l'humanité on est, qu'est-ce qui se joue réellement. Et donc, à chaque fois qu'on trouve des idées qui permettent de délivrer un message d'une manière simplifiée, on pense que c'est une bonne action.
Alors, en même temps, on voit déjà une première différence de vos deux modes d'action à tous les deux, les deux désobéissants que vous êtes, c'est que dans votre action à vous, j'ai l'impression qu'il y a quand même une dimension délibérément provocatrice, qui n'est pas qui est totalement absente, arrêtez-moi si je me trompe, Cédric Héroux, qui est totalement absente de votre démarche à vous. Vous avez voulu provoquer personne.
Oui, c'est ça, mais je me considère même pas vraiment comme un désobéissant, en fait.
Ah bon?
Non, j'aide les gens à accéder à leurs droits. Et donc, si on est obligé de contourner une partie de la loi pour que une loi qui soit plus importante, qui serve en fait à l'intégrité d'hommes et de femmes, ben je pense que c'est pas de la désobéissance. J'ai même plutôt l'effet inverse, en fait. J'ai l'impression que la police, le préfet, le président du conseil départemental désobéissent plus à nos valeurs que ce que je peux le faire moi, en fait.
Oui, mais enfin, il y a une nuance entre désobéir à des valeurs et désobéir à la loi. C'est ce qu'on a dû vous répéter. Comment vous êtes retrouvé dans cette histoire, Cédric Héroux? Ça a commencé comment, votre rencontre avec ces migrants?
Ouais, je vais juste revenir, je réponds à votre question, juste revenir au niveau du détournement de la loi. Il faut savoir que moi, ce que j'ai fait, c'est prendre des mineurs isolés, donc sans parents, des gamins sans parents, et les sortir du département des Alpes-Maritimes pour qu'ils puissent être pris en charge par d'autres départements.
Car mais dans le département, pas seulement des mineurs, si j'ai bien compris, des majeurs aussi.
J'ai fait des majeurs aussi, mais beaucoup de mineurs. Donc les majeurs, en fait, c'est quand ils sont en famille, c'est quand ils sont accompagnés de mineurs. Et il faut savoir que les mineurs isolés sont obligatoirement pris en charge par le département des Alpes-Maritimes, alors que c'est absolument pas le cas. On a des preuves, donc Amnesty a fait des rapports là-dessus, Amnesty International a fait des rapports là-dessus. On est 300 à avoir porté plainte contre le préfet des Alpes-Maritimes et le président du conseil départemental, parce que la police, donc la PAF, la police nationale, prend des mineurs isolés et les ramène en toute illégalité en les cachant dans les trains en Italie. Donc, ce que je fais, la police le fait, mais la seule différence, c'est que moi, je sors les enfants du danger et que la police les mette dans le danger. La grosse différence, elle est là, en fait.
Les plaintes ont été déposées, hein ?
Les plaintes ont été déposées, oui.
Et c'est à l'instruction ? Il y a un juge d'instruction ?
On n'a pas encore de nouvelles. Hein. On arrive bientôt à la fin. On n'a pas trop de nouvelles là-dessus.
Elles ont été déposées quand ? Elles ont été déposées quand ?
J'ai plus en tête. Il y a un mois et demi, deux mois, un truc comme ça.
Et depuis un mois et demi, deux mois, vous n'avez aucune nouvelle ?
On n'a pas de nouvelles, non. On n'a pas de nouvelles.
D'accord. Oui, alors je vous demandais comment vous êtes retrouvé dans cette histoire.
Ben, petit à petit, en fait. Hein. Au départ, on voit des gens. Donc, moi, je m'arrête en général pour prendre les gens en stop. Quand je vois un chien boiteux, je m'arrête aussi. Donc, quand je vois des gens de couleur noire venus d'Afrique ou pas, je m'arrête quand même. Hein. Et je les emmenais en gare des trains. Et je me suis aperçu, en fait, qu'une fois arrivés dans les gares d'après, ils étaient retournés en Italie et ce n'était pas une solution, en fait. C'est des gens, en fait, qui sont stockés là à Vintimille. Il faut savoir que Vintimille, c'est la ville la plus proche de mon village. Donc, on va faire des courses, on va à Vintimille, c'est juste à côté, c'est en bas de la vallée. C'est assez évident.
Ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'ai appris, c'est que votre maison est située tout près de la voie ferrée. C'est de la voie ferrée entre Vintimille et où, d'ailleurs ?
Et Breil-sur-Roya.
Et Breil-sur-Roya, et qu'un certain nombre de migrants tentent d'entrer en France à pied en suivant la voie ferrée.
Oui, c'est ça.
Et donc, c'est comme ça que finalement, ils se sont retrouvés chez vous.
Oui, c'est ça. Les premiers. C'est vrai que j'ai pris en charge des mineurs, et les familles, parce que me retrouvant à 26 000, en fait, je livre à Nice donc tous les jeudis, et en remontant donc à mon domicile, on passe obligatoirement par l'Italie. C'est une vallée un peu spéciale. Et donc, du coup, en voyant des mineurs et des femmes, etc., dormir dehors, je les ai mis dans mon véhicule pour le mettre à l'abri, je les ai emmenés chez moi. Et c'est de l'assistance à personne en danger que j'ai fait. C'est sûr qu'il y a un passage de frontière, mais bon, ça reste un détail, il me semble. Et une fois chez moi, après, il faut bien en faire quelque chose. Donc, du coup, je les ai aidés à continuer leur chemin pour rejoindre amis, famille, etc., voire en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Hollande, ou à Paris, ou à Marseille, ou, voilà, ou autre.
Allez, c'est important ce que vous dites, parce que je ne comprenais pas bien cette histoire de franchissement de frontières, mais ce que vous dites, c'est que pour remonter de Nice à chez vous, ça, la route passe par l'Italie. Et donc, pour rentrer de Nice à chez vous, si vous trouvez les migrants sur le chemin, fatalement, pour les amener chez vous, vous les faites passer la frontière. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça, exactement.
D'accord. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui vous est reproché spécifiquement, le franchissement de frontières ?
Oui, c'est ça. En fait, ce qui est interdit, c'est on a le droit d'héberger qui on veut à la maison. Ce qui est interdit, en fait, c'est de les transporter. En fait, c'est pas vraiment interdit. C'est que dans le devis de solidarité, c'est pas mentionné le transport en véhicule. On peut héberger, on peut renseigner conseiller sur l'aspect juridique, etc. Mais c'est pas marqué le transport. Donc, on sait pas si c'est interdit ou si c'est légal. C'est le passage de frontière. Mais si on n'a pas de solution subsidiaire à ça, ben on peut passer une frontière, quoi.
Il y a un vide juridique. Cédric Héroux refuse le terme de désobéissant. Et vous, est-ce que vous vous inscrivez dans le concept général de désobéissance civile ou pas avec cette action ?
De désobéissance civile, oui. Et je considère, moi, que ce que fait Cédric, c'est aussi de la désobéissance civile. Mais je pense qu'en fait, il y a un gros point commun dans notre démarche.
Vous avez entendu ce qu'il vous dit finalement, les désobéissants, c'est les autres. Les désobéissants, c'est les policiers qui les ramènent en Italie illégalement.
Qui désobéissent aux valeurs, en fait.
Ouais. Oui. Mais dans l'évasion fiscale, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a tout un jeu pour contourner la loi et faire passer l'évasion fiscale pour de l'optimisation fiscale, etc. Mais je pense que ce qui est important, c'est que la désobéissance civile, ce n'est pas une démarche qui consiste à désobéir à la loi pour l'art de désobéir à la loi et pour rejeter le principe de la loi. Ça relève d'une conception du rôle du citoyen dans une démocratie qui est de faire d'abord ce qui est juste, et parfois la loi n'est pas juste ou n'est pas suffisamment efficace pour garantir des situations de justice. Et là, je pense qu'on a deux situations qui correspondent à ce diagnostic. Quelles que soient les lois, le fait qu'il y ait des gens perdus qui n'ont pas à manger, qui ont froid, qui dorment dehors, ce n'est pas une situation juste, ce n'est pas une situation digne. Et le rôle du citoyen, c'est de venir en aide à ces personnes-là. Et là, c'est intéressant ce que nous dit Cédric, c'est-à-dire oui, mais il a traversé la frontière, etc. Mais c'est pas le cœur de l'histoire. Est-ce que les citoyens doivent aider les gens qui en ont besoin, ou est-ce qu'ils doivent pas, le faire ? Et dans l'évasion fiscale, c'est pareil. La question, c'est pas est-ce que c'est l'évasion fiscale de l'optimisation fiscale. Là, il y a un système organisé qui permet aux puissants de payer beaucoup moins d'impôts que les autres et de faire évader tellement d'argent que ça équivaut au déficit public de la France. Et quand on est dans une situation de blocage, alors d'abord, quand on est dans une situation où il y a une distorsion entre ce qui est légal et ce qui est juste, c'est-à-dire même si c'est légal, du moment que c'est injuste, les citoyens doivent intervenir. Et d'autant plus si on voit qu'on est dans une situation de blocage au niveau des institutions. Et je pense qu'on le voit aussi bien...
Ce qui est le cas aujourd'hui, on a vu avec les nombreuses enquêtes d'Anne-Sophie qu'on a publiées sur le site, à quel point la lutte contre l'évasion fiscale n'avait pas été une priorité toutes ces dernières années.
Ouais. Bien sûr. Et donc voilà, et en démocratie, le rôle des citoyens, c'est pas de voter une fois tous les 5 ans et d'attendre de voir ce qui se passe et de dire les gens s'en occuperont. On est suffisamment bien informé pour voir qu'il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas. Et quand ça fonctionne pas, c'est aux citoyens d'intervenir. C'est-à-dire que c'est un rôle actif et constructif de la démocratie. Donc en fait, là où je rejoins Cédric, c'est qu'on n'est pas là pour désobéir à la loi.
C'est Cédric qu'on pourrait voir derrière vous, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est possible techniquement. Voilà, le voilà.
Mais la désobéissance civile, c'est une manière de désobéir à une loi en révélant une situation d'injustice plus générale pour demander à ce que la loi soit plus juste ou mieux appliquée.
Cédric Héroux, alors finalement, vous êtes désobéissant malgré vous.
J'accepte.
Ah bon, ben voilà, au moins le débat est réglé. Alors, ce qui est sûr, c'est que vos deux actions, à tous les deux, ont recueilli beaucoup de sympathie, non seulement de la part de journalistes de terrain, de reporters de terrain, mais même de chroniqueurs des plateaux de télé parisiens, comme on va le voir toujours avec cet exemple de la nouvelle édition.
L'ambiance, elle est calme, elle est sereine, mais elle est déterminée. Ils sont tous solidaires ce matin de Cédric Héroux, cet agriculteur qui est devenu un symbole de l'aide aux migrants, un emblème de la désobéissance civile. Et surtout, c'est devenu un héros local, puisque les lecteurs de Nice matin l'ont élu l'Azuréen de l'année.
Voilà. J'espère qu'il ne sera pas condamné, cet agriculteur qui, au fond, accueille sur son
Cédric
terrain
jeudi prochain.
Ces grands passages, parce que lui, au fond, il fait que tendre la main, et bravo à lui, je veux dire, de tendre la main à des êtres en désespoir, enfin, qui ont des problèmes de vie.
À un moment, il ne faut pas se tromper de combat. On ne peut pas lutter contre des gens qui appliquent les règles strictes de l'humanité la plus élémentaire.
Exactement.
L'idée qu'on puisse condamner quelqu'un comme Cédric Héroux, est-ce que ça vous allez, vous avez vu faire un grand geste?
Alors, c'est l'indignation.
Ah.
Ce monsieur-là, je lui donnerai l'ordre du mérite national et la Légion d'honneur tout de suite.
Pourquoi?
Parce qu'il fait preuve d'humanité.
Ces chaises peuvent être rendues aux banques si les banques rendent l'argent qu'elles ont aidé à détourner des finances publiques.
Ça vous fait sourire, Nicolas?
Ah, moi, j'ai soutenu.
Vous aimez bien ce genre
de... Vraiment, parce que je trouve que quand l'ordre tourne au désordre, eh ben, il faut mettre de la désobéissance civile. Mais c'est de la désobéissance civile pacifique et symbolique. Mais... Et elle est forte parce que les gens réfléchissent. On espère quand même que la France, comme elle l'a montré pour la vallée de la Roya, n'est pas ce pays qui punirait durement certaines désobéissances civiles quand elles attirent l'attention sur des vrais faits. Ouais.
Alors là, j'ai envie de vous poser une question provocatrice à tous les deux. De voir que vous recueillez tellement de sympathie de la part de cette émission de Canal+, de C8, c'est-à-dire du groupe Bolloré, de l'affreux Bolloré, est-ce que ça ne vous fait pas vous poser des questions et vous demander, au fond, est-ce que nos actions, pour recueillir cette sympathie de ces gens-là, ne sont pas des actions essentiellement symboliques et inoffensives?
Non, je ne pense pas, parce que bon, d'abord, nous, on a vu dans quel embarras ça a mis la BNP. Mmh. Et elle est passée par un petit peu... Elle a beaucoup hésité sur la stratégie à mener. Donc, on voit que c'était quelque chose qui lui posait un vrai problème. Mais
en allant plus loin, vous estimez que des actions comme la vôtre peuvent pousser contre... Parce que je sais très bien que d'embarrasser la BNP, mais enfin, ça ne suffit pas à faire que la BNP arrête de faire de l'optimisation fiscale. Donc, est-ce que vous estimez que des actions comme la vôtre peuvent avoir des conséquences, pour le coup, concrètes, que la BNP cesse de travailler avec des paradis fiscaux?
Alors, elle a annoncé qu'elle se retirait déjà des îles Caïmans, et ça, c'était une revendication directe qu'on adressait à la BNP. En fait, on visait les banques les plus implantées dans les paradis fiscaux, et il faut toujours les citer d'ailleurs, parce que c'est intéressant de savoir que c'est la Société Générale, le Crédit Agricole et la BNP en tête. On allait aussi dans la HSBC, même si ce n'était pas une banque française. Et la BNP, justement, on la visait particulièrement parce qu'elle avait 6 filiales dans les îles Caïmans, avec 0 salarié, et elle faisait des millions de bénéfices. Et donc, pour nous, c'était un cas emblématique de ce à quoi consiste l'évasion fiscale, c'est-à-dire de déclarer des bénéfices à un endroit qui ne correspondent pas à l'économie réelle, puisqu'il y a 0 salarié. Et dans un premier temps, ils nous avaient reçus à Paris, en réunion avec la direction nationale de la BNP. Ils nous demandaient d'arrêter les réquisitions de chaises, et nous, on leur disait qu'on arrêterait de les viser spécifiquement eux s'ils annonçaient leur retrait des îles Caïmans. Ils nous avaient dit non. On ne le fera pas parce que ce n'est pas un paradis fiscal, c'est un paradis réglementaire. Mais en fait, quelques mois plus tard, ils ont annoncé en interne, en fait, qu'ils allaient se retirer des îles Caïmans. Et c'est quelqu'un de la BNP qui nous a envoyé le message. Et donc, c'est nous qui l'avons révélé publiquement. Ensuite, des journalistes ont demandé à la BNP de confirmer. Et elle a confirmé.
Ah oui, ils vous ont quand même envoyé le message à vous. C'est vous qui avez... Ça m'avait échappé, ça.
C'est... Ah non, mais ce n'est pas les dirigeants qui nous l'ont envoyé. C'est quelqu'un de la BNP qui a fait fuiter... le message.
Oui.
Justement, je pense que leur stratégie à eux, c'était de se retirer des îles Caïmans parce que là, ils se sont rendus compte que c'était trop flagrant, en fait, mais sans faire une annonce, parce que sinon, ça actait une victoire pour nous, ça montrait qu'on avait raison, ça montrait que... Ça montrait aussi que dans les îles Caïmans, ce qu'ils faisaient était louche. Oui. Donc, il fallait qu'ils s'en aillent avant que ça prenne trop de lumière et que ça attire trop l'attention, mais sans le dire, parce que
quand
sinon...
Quand vous dites que c'est quelqu'un à l'intérieur qui nous a prévenu, ça veut dire que vous avez des alliés dans la place?
Eh bien oui, manifestement. En fait, il y a plusieurs...
Manifestement, vous êtes bien au courant, si vous avez...
Oui, non, mais tout à fait. À plusieurs reprises, des gens nous ont envoyé les mails qu'ils recevaient en interne, et notamment, par exemple, la directive que la BNP a envoyée aux directeurs régionaux des agences pour leur dire quoi faire si des gens venaient leur prendre les chaises.
Et ils sont contentés de vous envoyer des mails ou vous avez eu des contacts avec eux ?
Non, je crois que c'était que... Alors, c'est pas moi qui les recevais directement, mais c'était que des mails.
C'était que des mails. Mais... C'est-à-dire vous savez pas qui ils sont ?
Non. Non, je pense que non.
C'est... Oui, mais on avait évoqué l'hypothèse sur le site Arrêt sur Image, justement, de cette espèce de colère aussi des salariés de la banque BNP qui ne voulaient pas non plus laisser passer les actions de leur banque et qui sont aussi, quelque part, des mini-lanceurs d'alerte ou des gens qui désobéissent en principe à la règle qui veut qu'on est très solidaire de l'entreprise pour laquelle on travaille.
Et puis on ne fait pas fuiter à l'extérieur des mails internes.
Deux choses par rapport à ça. La première, c'est que du coup, on voit qu'on peut faire bouger les lignes avec des actions qui sont matériellement inoffensives, mais en fait, la justesse du message fait que quand tu poses la question qui va déranger, la question qui appelle la réponse qu'ils ne veulent surtout pas donner, oui, ça peut provoquer des choses. Après, on n'est pas non plus naïf, c'est-à-dire que le système de l'évasion fiscale, sa nature même est de pouvoir déplacer les choses d'une filiale à l'autre. Donc, ce qu'ils ont fermé aux îles Caïmans, on n'a aucun doute qu'ils l'ont mis ailleurs et que le système de l'évasion fiscale est intact. C'est un système tentaculaire. Donc, voilà. Mais ça permet de montrer quand même que ça peut avoir un impact. Mais après, la sympathie qu'on a de la part de journalistes qui travaillent à Canal+, je pense que c'est le même ressort que la sympathie qu'on peut avoir de gens qui travaillent à la BNP. C'est-à-dire que il y a dans l'action non violente une force de persuasion. Et c'est pour ça que Cédric parlait de transparence. C'est très important de mener des actions transparentes où on explique tout ce qu'on fait, où les gens voient qu'on le fait pour l'intérêt général, où les gens voient qu'on a une démarche sincère, parce que là, on peut convaincre les gens. Et on peut convaincre des gens qui travaillent à la BNP, parce que pour la plupart, leur boulot, c'est pas d'organiser l'évasion fiscale, et eux-mêmes doivent éventuellement mal vivre l'image de marque qu'ont les banques en ce moment. Et c'est la même chose pour des journalistes qui travaillent à la BNP. C'est aussi des gens qui ont leur propre conviction.
Pour les banquiers. Parce que les journalistes ne travaillent pas encore à la BNP.
Les journalistes qui travaillent à Canal+. Je pense qu'ils ont aussi leur propre conscience.
Cédric Héroux, sur ce principe de transparence, on a l'impression que pour vous, ça n'a pas toujours été aussi clair. Est-ce que ça a toujours été aussi clair dans votre tête de dire, voilà, tout ce que je fais, je peux le dire publiquement ? Ou est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où, pour des raisons tactiques ou pour des raisons de sécurité personnelle, vous n'avez pas parfaitement dit tout ce que vous faisiez ?
Au départ, il faut savoir que ça fait peur, en fait, qu'on ait des dispositifs de contrôle. On est dans un département où il y a quand même beaucoup de gens du Front National. Je ne dis pas que tous les gens du Front National sont dangereux, hein, pas loin de là, mais il y a quand même une petite minorité là-dedans qui sont des gens violents et dangereux. Et de médiatiser, ça amène forcément à avoir affaire à la police directement, avec les fachos, comme on peut dire.
Vous avez eu des réactions de lecteurs du Front National ou de fachos de votre entourage ou de la vallée ?
Ben, j'ai des appels au meurtre quasi quotidiens.
Sous quelle forme ?
Par courrier.
Vous recevez tous les jours des courriers d'appels au meurtre chez vous ?
Quasi, au moins tous les trois jours. Ouais. Tous les trois jours, via les réseaux sociaux.
Signé ?
Ouais, signé, mais avec des faux noms.
Signé avec des faux noms ? Mais vous les connaissez ?
Non, c'est des gens qui se cachent, en fait.
Vous pourriez les connaître. Je veux dire, dans la vallée, j'imagine que vous connaissez un peu tous.
Non, mais dans la vallée, on n'a pas de problème. En fait, la chose intéressante, c'est ça, en fait. C'est que les gens qui critiquent nos actions, qui critiquent les migrants, etc., ce sont des gens, en fait, qui ne sont pas directement dans le problème. C'est des gens qui voient ça de loin, par la télé, etc., ou des journaux, etc. C'est pas des gens, parce qu'une fois qu'on a les migrants en face de nous, une fois qu'on les a chez nous, on voit que c'est des gens qui ressemblent à la cousine, à la sœur, à la tante, à la voisine, etc. Et vous savez ce qu'il y a ? Tout à l'heure, on parlait d'impact sur les actions. Moi, j'ai un impact qui est assez immédiat. Hein. Donc, il y a des gamins qui sont en route, une famille. Je les prends, je les emmène à la maison. Le résultat, il est immédiat. Et ce qui est étonnant, en fait, c'est le contact que j'ai avec donc les gendarmes ou avec la PAF ou avec les gens qui travaillent derrière l'uniforme. Et j'ai appris à arrêter mon côté anti-flic, en fait. Et c'est qu'il y a des gens qui sont là, qui sont conscients, qui sont sur le terrain, qui sont conscients du problème. Vous savez, quand les gendarmes de la Vallée de la Roya ramènent systématiquement des gamins à la PAF Menton, et que la PAF Menton les ramène en Italie, et qu'après les gamins ils remontent dans la Vallée de la Roya, que les gendarmes les rechoppent, ils font ça 10 fois d'affilée. Les gendarmes voient bien que cette frontière ne sert à rien déjà et que ça met en péril des gamins et ils voient l'inefficacité de tout ça. Vous savez, pour un gendarme de courir après un gosse pour l'attraper, ben c'est pas évident.
Voilà. Ce que vous dites, c'est il faut le prendre au sens propre, c'est-à-dire que vous avez constaté vous-même que le même enfant avait pu être rechoppé 10 fois de suite. Faut le prendre au sens littéral, ce que vous venez de dire. On est bien d'accord ou pas ?
C'est pas le même enfant, c'est tous les enfants qui sont attrapés dans les Alpes-Maritimes sont reconduits à la frontière. Voilà. Et mon action, en fait, les gamins qui croisent ma route, ils ont de la chance parce que je suis médiatisé, puis j'ai un impact direct avec l'aide sociale à l'enfance et le parquet des mineurs. Quand ils sont chez moi, ils sont plus ou moins protégés. Ils sont en général pris en charge par le département. Je dis en général, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je me suis fait arrêter donc jeudi dernier en compagnie de d'Érythréens. En fait, qui s'étaient perdus, et puis bon, ils ont pensé que je les emmenais, que j'avais contourné un dispositif de contrôle policier, etc. Et donc, j'ai fait 48 heures de garde à vue, ils ont arrêté mon frère, ils ont arrêté une amie, je pense que c'est juste pour me mettre la pression directement. Et ils ont fait une perquisition à mon domicile avec des gardes mobiles. Les gardes mobiles, ce sont des CRS, donc ils sont arrivés chez moi à 30, voilà, vous avez la belle photo là, avec le tracteur à côté, ça fait rigolo. Et donc du coup, ils sont arrivés chez moi une trentaine, et on avait 3 mineurs qui étaient là chez moi et qui attendaient depuis le 16 décembre, et donc mineurs non accompagnés, mineurs isolés, hein, qui doivent être pris en charge par le département des Alpes-Maritimes. Donc ils attendaient là depuis plus d'un mois. Et c'est charmant monsieur des gardes mobiles, et je vais vous dire le choix du procureur pour les gardes mobiles, c'est que c'est des gens qui n'habitent pas ici, c'est des gens qui ne me connaissent pas.
À la différence des gendarmes de la vallée dont vous parliez tout à l'heure, oui.
Il avait demandé à la PAF ou aux gendarmes de venir chez moi, ça serait passé différent, parce que maintenant c'est des gens que je connais, parce que je me suis arrêté quand même un paquet de fois. Et donc les circonstances n'auraient été pas pareilles. Donc ils sont rentrés dans la caravane, armes au poing, ils ont pris les gamins, ils ont traîné par terre, ils ont mis dans les véhicules et retournés en Italie. Les gamins avaient leurs affaires personnelles dans les caravanes. Vous rendez compte? Et alors, ils ont payé 30 gardes mobiles pour attraper 3 gamins, mon frère et une amie, pour quoi faire? Rien au bout du compte, parce que les 3 gamins sont remontés le lendemain matin à mon domicile.
De ce que vous savez, le procureur agit de sa propre initiative ou il a eu des consignes de Paris, du ministère de la Justice à Paris?
Mais vous connaissez je finis juste l'histoire des gamins là qui sont en Italie et qui sont remontés. C'est des gamins qui ont été pris en charge quelques jours après, donc mardi dernier, par l'aide sociale à l'enfance. Bon, pour vous dire quand même qu'ils étaient tout à fait, ils avaient tout à fait le droit de rester sur le sol français. Et votre question, c'était quoi? J'ai déjà oublié.
Est-ce que le procureur agit de sa propre initiative, parce que vous l'énervez beaucoup et d'une certaine façon, peut-être qu'il en fait une affaire personnelle, j'en sais rien, ou est-ce qu'il a eu des consignes du gouvernement et du ministère de la Justice à Paris?
Mais au départ, moi, je croyais que le procureur, c'était l'avocat des citoyens. Donc, mon avocat, l'avocat du peuple. Et en fait, pas du tout. Le procureur, c'est une personne qui est là pour faire respecter le droit sous des directives politiques.
Donc, alors, en l'espèce, vous... Non, mais je veux dire, puisque les gendarmes vous parlent, les policiers de la PAF vous parlent, puisque les banquiers parlent à John Palais, on pourrait imaginer qu'il y ait des gens au parquet de Nice qui vous parlent. Enfin, je sais pas, vous auriez pu avoir des confidences de gens du palais de justice. Mais enfin, sur le point de savoir, pourquoi cet acharnement du procureur contre vous?
Parce que, vous savez, M. Valls, avant de partir, il a nommé un nouveau préfet, donc le préfet Leclerc, et pour faire le propre sur la frontière. Donc Valls a osé espérer en fait être président un jour de la République française, et je crois que c'est un peu ambitieux pour lui. Ouais. Et du coup, il a nommé donc le nouveau préfet pour justement se débarrasser de la problématique de la frontière italienne. Et le préfet en fait nous charge et nous incrimine. La première chose qu'il a fait en fait, c'est de faire une tribune sur le Nice ce matin en disant oui, les habitants de la Vallée de la Roya sont des malfrats, etc., etc. Ce qui est quand même assez grave, je trouve. Et je pense que le procureur de la République, Monsieur Prêtre, a beaucoup de pression politique à mon égard. En fait, ouais, c'est pour ça qu'il charge et que.
Alors un mot sur Nice ce matin puisqu'on en parle. Vous avez été élu azuréen de l'année.
Oui, c'était les lecteurs de Nice Matin qui vous ont élu, mais haut la main, hein, devant même l'écrivain Guillaume Musso, si vous dire. et alors ça n'a pas vraiment plu justement à Éric Ciotti. Je le rappelle, un député des Républicains, président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui lui a publié également une tribune dans ce même Nice Matin pour expliquer en quoi vous ne pouviez pas être azuréen de l'année. Et c'est des arguments qu'il a développé également sur le plateau de Télématin, c'était sur France 2, le lendemain de votre procès, c'est-à-dire le 5 janvier.
Le procureur a requis 8 mois de prison avec sursis à l'encontre d'un agriculteur qui comparaissait hier à Nice pour avoir aidé des migrants dans la vallée de la Roya, près de la frontière franco-italienne. Ce sont vos terres, comme on dit. Il est sanctionné pour excès de générosité, c'est ça ?
Bon, je crois que c'est beaucoup plus compliqué. Le réquisitoire du procureur vise l'organisation d'une filière qui s'assimile à une complicité avec des passeurs. L'organisation de ces filières est contraire à la loi. Je n'ai pas interféré dans la décision du tribunal.
C'est mais un moi, sujet que vous avez porté. Hein.
J'appelle au respect des lois de la République.
Le problème...
Ces initiatives qui s'appuient sur une générosité que certains comprennent et peuvent apprécier est contraire aux objectifs recherchés. Parce que qu'est-ce qu'il y a à la sortie ? Il y a plus de flux migratoires, il y a plus de passages en Méditerranée. Les messages d'ouverture généralisée ont conduit au record de morts l'année dernière en Méditerranée. 5000 morts. C'est la fermeté qui est gage d'humanité.
Où commence le militantisme ? Où commence la générosité ? L'assistance à personne en danger ? Ce sont des Érythréens, des réfugiés. Ce que dit cet agriculteur, c'est que souvent, eh ben, il aide des gamins qui ont passé la frontière une douzaine de fois, qui sont à bout de force. Comment est-ce qu'on tranche ça ?
C'est beaucoup plus compliqué. C'est lui qui fait passer la frontière. C'est à la justice de se prononcer. Moi, je fais confiance à la justice. Il y a des institutions... On a un contrôle aux frontières. Pourquoi il y a un contrôle aux frontières ? Parce qu'on est face à une menace terroriste.
Voilà. Alors, sur cette histoire de franchissement de frontières, vous avez répondu tout à l'heure, on n'y revient pas. Il y a quand même un paradoxe de voir que les lecteurs de Nice Matin vous plébiscitent, mais que ces lecteurs, quand ils se transforment en électeurs, ils votent pour Ciotti et Estrosi. Comment vous analysez ce paradoxe ?
Déjà, rien que l'élection en elle-même, elle est quand même assez... Bon, je n'ai pas pris beaucoup d'importance à cette élection-là. Parce que
ça laquelle me... Laquelle
ben, la de Nice Matin.
Ah bon ouais. Ah ben, on a un lauréat qui refuse sa couronne, alors.
Non, mais l'élection de Nice Matin, c'est... On demande en fait de choisir entre le rose et le bleu et le noir, comme des gamins de 3 ans. Là, tu vois quelle couleur que tu préfères, sans fondement, enfin, je veux dire... Comment vous voulez qu'on vous compare les différentes personnes qui étaient présentées par Nice Matin ? Enfin, c'est un peu... Et moi, ce que je trouve quand même assez minable, c'est le fait de la tribune de Ciotti, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a que ça à faire, en fait, de s'occuper d'un paysan éleveur de poules qui passe dans une élection de Nice Matin ? Enfin, je trouve assez ridicule là-dessus.
En même temps, Cédric Héroux, vous savez très bien qu'il ne peut pas vous ignorer. De la même manière que la... John Palais nous racontait que la BNP ne peut pas ignorer les vols de chaises, était obligé de réagir. Ciotti et Estrosi ne peuvent pas vous ignorer.
Je suis d'accord. Donc, qu'ils n'ignorent pas mes actions, etc. Mais l'élection en elle-même, enfin, bref. Et ce qui est assez intéressant dans ce qu'il dit, en fait.
Ben si, que... l'élection, excusez-moi, mais si, l'élection en elle-même. Parce que tant que vous restez dans votre vallée, à la limite, ça peut passer. Mais je veux dire, vous, Nice Matin, c'est chez eux. Nice Matin, c'est eux. Et vous voir plébiscité par les lecteurs de Nice Matin, j'imagine que symboliquement, pour eux, ça ne doit pas être très facile.
C'était assez rigolo parce que Nice Matin était traité de média de gauche. Mais c'est vrai que moi, je m'en fous d'une élection pareille parce que je fais pas de la politique électoraliste comme Monsieur Ciotti. Moi, je fais de la politique populaire concitoyenne. Moi, vous voyez, l'espace public, c'est chez moi. C'est chez mon voisin, c'est chez mes amis, etc. L'espace public, c'est sur les places, c'est sur les ponts, c'est dans ton quartier, c'est dans ta rue, c'est dans ta ville, c'est dans ton département. Et nous, on s'occupe de ça. Donc, il y a une carence d'État sur une vallée. Nous, on s'en occupe. Après, ce qui dérange Ciotti, c'est qu'on met en porte-à-faux son devoir. Parce que M. Ciotti croit que d'être élu président de département, ça allait manger la galette de roi dans les maisons de retraite, ça allait couper le bandeau bleu-blanc-rouge de l'inauguration d'une piste quelconque. Non, c'est être élu, ça emmène à des devoirs, c'est vachement compliqué, ça devrait être c'est un honneur pour lui, je pense, d'avoir été élu président du département, mais ça l'oblige en fait à ses devoirs. Et ses devoirs, c'est la prise en charge des mineurs isolés. Et ce qui l'arrange de dire, en fait, c'est que je prenne des gamins à Vintimille, puis je les ramène en France, et c'est ça qui l'arrange. Mais même, à la limite, que moi je me fasse condamner là-dessus, c'est un ok, c'est un fait, mais les gamins, ils sont quand même en France. Donc il a quand même à les prendre en charge.
John Palais, vous avez envie de réagir à ça? Et puis d'ailleurs, vous avez envie de parler tous les deux? Enfin, vous pouvez, hein.
Moi, je pense que c'est bien qu'il soit élu azuréen de l'année.
Vous pouvez lui dire directement.
Hein. Oui, mais je comprends effectivement si c'est pas forcément le média dans lequel Cédric se reconnaît et que ça doit être effectivement un protocole un peu peut-être hasardeux.
Je vais juste faire un point sur le protocole, comme ça on sera tous d'accord. C'est effectivement une sorte de sondage publié sur le Facebook de Nice Matin. Ça a recueilli 2700 votes de mémoire.
J'ai vu 4000.
4000 votes. Moi, j'en étais resté à 2000. Ce qui est pas, c'est quand même pas. C'est quelque chose d'assez confidentiel. Donc, c'était pas l'élection de Miss France, je veux dire.
Oui. Alors, on a 4257 voix sur 7600.
Autant pour moi,
sur 7677. Vous trouvez ça bien, John Palais, vous trouvez ça bien, vous?
Ben, en tout cas, ce qui aurait été terrible, c'est qu'on ait un résultat inverse. C'est-à-dire que les gens se prononcent en disant « non, il ne faut pas aider ces gens », etc. Et je crois que c'est ça la force d'une action non-violente, d'une action de désobéissance civile. C'est à partir du moment où on révèle ce qui se passe, on montre ce qui se passe, les gens se forgent une opinion. Et parce que finalement, combien sommes-nous à savoir vaguement qu'on a un problème avec les migrants et à ne pas s'en occuper et du coup, à ne pas y penser et à ne pas avoir d'opinion dessus.
Donc, et idem pour l'évasion fiscale d'ailleurs.
Oui, voilà. Donc ces actions-là mettent un sujet sur la place publique et donc les gens sont obligés de regarder ce qui se passe. Et donc moi, ce que je retiens, c'est que quand ces actions touchent la conscience des gens, elles font progresser les opinions dans le bon sens, enfin dans le sens de l'humanisme. Et donc les gens, comme disait Cédric, se rendent de plus en plus compte que les migrants, c'est pas des extraterrestres, c'est des gens comme nous qui ont les mêmes besoins que nous.
D'ailleurs, d'une manière générale, hormis le cas de ce sondage, comment s'établissent vos rapports avec la presse locale, Cédric Héroux, avec Nice Matin, avec la station locale de France 3, avec les stations locales de Radio France?
Ça se passe très bien, mais je vais revenir sur un point là, sur Ciotti, sur cette élection. En fait, ce qui l'a beaucoup énervé, c'est que avant qu'on prête ces actions, qu'on médiatise ces actions-là, c'est qu'il disait les habitants des Alpes-Maritimes ne veulent pas d'un centre d'accueil, parce qu'il faut savoir que le département des Alpes-Maritimes, c'est le seul où il n'y a pas de CAO, de centre d'accueil pour les migrants, alors que c'est le département qui est frontalier avec l'Italie, ce qui est une aberration qu'il n'y ait pas de centre. Et donc il est là, il a dit oui, mais les habitants ne veulent pas, donc il n'y en aura pas, je serai à l'écoute des habitants, mais les habitants, là, ils ont prouvé le contraire, quoi. Ils ont prouvé le contraire.
Ils ont prouvé, attendez, vous disiez tout à l'heure vous-même que ce sondage était bidon, alors il faut savoir, soit il est bidon, soit c'est une preuve.
Non, mais c'est prouvé sur le terrain, parce qu'il y a énormément de gens qui se mobilisent, évidemment, pour qui donner des couvertures, à manger, des fringues, et puis accueillir soi-même des migrants de passage.
Ouais. Ça, c'est autre chose.
Le sens de l'élection que je trouve. Donc c'est pas le et l'élection est bidon complètement. Mais après voilà, ça montre justement qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont sensibles aux valeurs de base hein, quand même, qui sont le respect des droits de l'homme, droits d'enfant, etc. Et qu'on bafoue pas ses droits parce qu'il y a quatre noirs qui arrivent sur le département. Et du coup voilà, c'est vrai que ça m'a fait plaisir dans ce sens-là de dire bon, on n'est pas tout seul. Et c'est pour ça que je continue un peu ces actions et de dire voilà, on est quand même des milliers derrière.
Alors, il y a quelque chose qui vous a beaucoup aidé tous les deux, on peut le dire, ce sont les procès que vous avez dû affronter, Anne-Sophie.
Oui, et c'est vrai que ça, c'est une critique qui vous a été formulée à la fois par le procureur de Nice et également par le procureur de Dax lors de votre procès, c'est à savoir, vous utilisez votre procès comme une tribune politique et à la fois médiatique, et ce en quoi ils n'ont pas tout à fait tort.
Les gens qui sont venus chez moi, c'est plusieurs centaines. C'est des enfants, c'est des familles et c'est des gens de bien. Et je suis heureux de les avoir accueillis et je suis fier de les avoir accueillis chez moi.
Les réquisitions citoyennes de chaises, c'est une manière de réagir aux différents scandales qui ont éclaté sur l'évasion fiscale.
Au départ, quand j'ai pris des gens dans ma voiture, je savais pas que ça n'arrivait là, parce que je fais rien d'exceptionnel. Hein. Je prends des gens en stop à Vintimille qui ont mal à la jambe, qui ont mal quelque part, qui me demandent de l'aide. Je les aide, je les emmène à la maison. Une fois à la maison, je les aide à retrouver la famille ailleurs.
C'était pas une action de vol, mais une action de protestation contre le vol.
Le département des Alpes-Maritimes a refusé d'ouvrir un centre. Bah, il y en a, enfin, mais c'est chez l'habitant.
On a agi en plein jour, à visage découvert, en expliquant le sens de l'action.
Quand je vois des gamins en bord de route, au froid, ou à dormir à Vintimille, au milieu de passeurs mafieux qui leur rendent autour, bah, moi les gamins, je les prends, je les emmène chez moi, je réfléchis pas, quoi.
On pense que ce sont les banques qui organisent un vol à très grande échelle des finances publiques.
Le silence rend complice et j'ai pas eu envie d'être complice d'une politique de rétablissement de la frontière, une politique stigmatisante d'une religion, d'une couleur de peau et d'une provenance.
On organise le procès de l'évasion fiscale qu'il faudra qu'un jour la justice organise. En attendant, c'est nous qui le faisons.
Voilà. Et ce qui est frappant dans ce montage d'Adèle Bello, c'est qu'on n'est plus seulement dans une émission, entre guillemets, pour Bobo, qui est la nouvelle édition, mais là, on voit que toutes les chaînes, finalement, se sont intéressées au procès. Donc, vive les procès!
Quand on en arrive, tout l'exercice est de montrer ce qui se passe et de mettre la lumière sur un système organisé, mais qui attire pas notre attention. Donc, il y a plusieurs étapes. Quand on rentre dans une banque et qu'on prend des chaises, ça révèle déjà quelque chose. Il y a une anecdote d'ailleurs, quand on parlait de pédagogie, c'est que le jour de la première action de réquisition de chaises, quand on est sorti, on s'est fait applaudir par des passants.
Et des passants, hein, pas des militants qui étaient là.
Non, des passants. Des passants et en fait des ouvriers du bâtiment qui prenaient leur café, qui faisaient une pause et qui prenaient leur café. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que sur un sujet, l'évasion fiscale, dont le point fort est qu'il est trop complexe, et que du coup, pour expliquer vraiment ce qu'est une société offshore, comment ça fonctionne, etc., on est désemparé. Mais voir des citoyens qui ressortent d'une banque avec des chaises, eh bien finalement, c'était une manière très simple et efficace.
– Mais ça, on l'a déjà dit, mais alors les procès ?–
Et alors, ensuite, quand il y a les policiers qui nous convoquent, etc., c'est, comment dire, ce que ça met en place, c'est de plus en plus absurde. Et donc le procès, c'est un peu l'étape ultime de ce système-là. C'est-à-dire que c'est le moment où les gens se disent, bah non, c'est pas cette personne-là qu'il faut poursuivre, puisque elle a pris juste quelques chaises, alors que les banques où on a pris les chaises, elles organisent. Oui, mais voilà, donc ça met en scène et ça rend évident pour tout le monde ce décalage-là et cette disproportion-là.
– Cédric Héroux, vous avez la même analyse du rôle utile du procès dans la prise de conscience ?–
Ouais, il y a un rôle utile en fait. Enfin, moi, je suis assez pragmatique. Moi, quand j'ai un problème, j'essaie que ce soit utile. Donc,
j'ai pas compris.
Et du coup, le procureur, c'est que le procureur a dit que je me servais de la justice comme tribune. Mais le procureur, il faudrait lui rappeler que c'est lui qui me poursuit et c'est pas moi qui le poursuis. Donc s'il a pas envie de me poursuivre, c'est facile. Donc il m'arrête, il me laisse sortir tranquillement et ça va m'arranger quand même pas mal.
Attendez, oui et non. Parce que, ce que nous dit John Palais, c'est que le procès sert la cause.
Oui, ça sert la cause, mais...
Évidemment, pour vous, c'est un inconvénient. Il faut descendre à Nice... on perd une journée, pendant ce temps-là, qui nourrit les poules et tout, mais ça sert la cause au total.
Pour la cause des poules, non, mais... Ouais,
non, je ne parle pas de la cause des poules, je parle de...
Oui, c'est vrai que ça sert la cause, c'est un outil. C'est un outil, c'est une tribune, mais c'est vrai que ce qui est quand même grave, c'est qu'on soit obligé d'en arriver là pour qu'on soit écouté. Et ça, c'est pas rassurant du tout.
Et vous, dans ce procès et votre action, vous avez même propulsé jusqu'à dialoguer avec l'ex-premier ministre et toujours candidat, mais voilà, pour quelques jours, Manuel Valls. C'était dans l'émission politique de France 2. On écoute quelques extraits.
Vous avez parlé tout à l'heure de femmes qui se cachaient derrière leur voile. Et oui, nous avons des femmes, nous, qui se cachent de vos frontières. Et le voile n'a jamais blessé personne pour l'instant, et tandis que vos frontières ont blessé des femmes, des enfants, des familles. Et moi, ces femmes, ces enfants, ces familles, je les aide comme je peux, je suis paysan. On a ces gens en fait, qui se cachent des dangers qu'apportent les frontières que vous avez mis en œuvre.
Cédric Héroux, est-ce que vous pouvez poser votre première question à Manuel Valls, s'il vous plaît ?
Je détourne des contrôles policiers qui cherchent des gens qui sont montrés du doigt, en fait, des gens de couleur noire.
Et on va laisser Manuel Valls répondre. Cédric Héron, on va laisser Manuel Valls répondre sur cette première question. On reviendra avec vous juste après.
Je rappelle que au moment du démantèlement de la jungle, les mineurs isolés ont été pris en charge par l'État.
Arrêtez avec cette histoire de jungle.
On va laisser Manuel Valls répondre.
Répond à Karim Ressouli.
Je vous parle pas de jungle, Monsieur Valls. Vous êtes.
Non, mais je voulais vous répondre sur les actes.
Vous avez facilement les médias en face de vous. Moi, non.
C'est vrai que vous avez facilement les médias en face de
vous. Moi, je les ai peu.
Vous êtes exprimé.
Non.
S'il vous plaît, laissez répondre Manuel Valls sur ce point.
Très bien.
C'est normal, vous me voyez. Je suis candidat à la présidence de la République. J'ai été chef du gouvernement. Mais enfin, ne croyez pas un seul instant que la situation de ces hommes et de ces femmes, de ces enfants, ne me touche pas. C'est pour ça que nous assumons nos responsabilités d'accueil. Mais la solution, monsieur, que vous proposez, je vous le dis...
Vous n'assumez pas vos responsabilités, monsieur Valls.
La solution que vous proposez, qui est d'ouvrir les frontières, qui est d'accueillir tout le monde, serait un remède, même s'il faut assumer. La demande d'asile en France est passée en 2 ans
de 60 000
à 90 000. Donc, nous assumons en effet le fait de mener une politique d'accueil des réfugiés qui soit à la fois maîtrisable, qui est ferme, qui est humaine, où nous jouons notre responsabilité.
Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un montage que nous avons choisi de centrer sur la répartition de la parole pendant cette séquence et le rôle de l'animateur dans la répartition de cette parole, mais qu'il y a d'autres moments où vous avez pu parler plus longuement. Sur Facebook, vous avez dit après cette émission que vous étiez déçu. Pourquoi ?
Non, je me suis excusé de ne pas avoir été à la hauteur parce que c'était cette semaine-là, j'ai fait 4 nuits blanches d'un coup, j'étais fatigué, c'était le lendemain du procès en fait.
Mais qu'est-ce que vous auriez préféré faire pour être à la hauteur ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ?
Ben, ce qu'il aurait fallu faire, c'est me lever et partir. Parce que c'est pas des gens avec qui discuter, parce qu'avec ces gens-là, on peut pas discuter. C'est des gens qui ont des mécanismes de c'est même pas du dialogue, c'est des mécanismes de manipulation. Et à qui j'ai envie de parler maintenant, c'est à ses électeurs, à lui. Et moi, j'ai envie de parler aux gens. Et je crois que j'arrêterai complètement de parler aux hommes politiques, au moins de cette hauteur-là. Et parce que ça ne sert à rien. Les gens sont des manipulateurs. Vous avez entendu ce qu'il a dit en disant qu'il est conscient de la détresse humaine. Il n'en a rien à cirer de la détresse humaine. C'est que tous les hommes politiques, là, pendant le débat, donc pour les élections présidentielle, utilise la migration à des fins populistes et électoralistes. Et on se sert en fait de ces gens pour faire peur aux Français. Quand on entend en fait le rétablissement de la frontière sur des risques terroristes, c'est vrai qu'il y a des risques terroristes, c'est pas faux, mais les risques terroristes, ça fait plus de 30 ans qu'ils existent. Et vous savez, pour passer de 26 000 à la France, ça coûte 250 €. Voilà. Un passeur, ça coûte 250 €. De croire que Daesh est à 250 balles près, il faut être soit bête ou bête. Et du coup, en fait, cette frontière sert juste à stigmatiser les gens et à dévier le problème, en fait. Et de parler de crise, etc. En fait, pour manipuler les gens, il faut leur faire peur. C'est la technique du choc. En fait, il faut choquer les gens pour pouvoir bien les manipuler. Et on se sert de ces frontières pour ça, et des migrants à des fins électoralistes.
Alors, vous dites que tous les hommes politiques utilisent le thème des migrants pour effrayer les électeurs. Pas tous. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quand même quelques-uns qui vous soutiennent. Vous êtes au courant ?
Qui me soutiennent, oui. Moi, je qui me soutiennent, qui sont Cédric Héroux, parce qu'on n'en a rien à cirer de Cédric Héroux.
Alors, pas tous, un petit montage des quelques-uns qui ont fait des déclarations en votre faveur.
Je pense à cet agriculteur des Alpes-Maritimes qui a injustement été condamné pour avoir accueilli 200 migrants. D'ailleurs, pour rien, et parce qu'il considérait que c'était de sa responsabilité humaine et parce que c'était la responsabilité de la France.
Il faut faire sa place à la loi du cœur en toutes circonstances. C'est pourquoi je veux exprimer une pensée particulière et personnelle pour M. Cédric Héroux.
Faut-il condamner Cédric Héroux ?
Non, moi je crois qu'il ne faut pas le condamner et je suis totalement solidaire de son action.
Voilà, donc successivement, Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent, vous les aurez reconnus. Ben voyez, il y en a quand même quelques-uns, vous n'étiez pas au courant ?
Non, je suis au courant, et moi ce que je veux, c'est pas qu'on soutienne Cédric Héroux. Moi ce que je veux, c'est qu'on soutienne une action et qu'on remette en cause Vous savez, qu'on soit pour ou contre les frontières, si on est pour les frontières, pour la rétablissement des frontières, il faut que l'État en assume les conséquences. Voilà. Et moi, je veux que les hommes politiques se positionnent là-dessus. C'est Éric Héroux, il faut l'oublier, il faut regarder le problème.
Vous êtes opposé aux frontières en général, c'est-à-dire à l'existence de frontières. Est-ce que j'ai bien compris ?
Pourquoi l'Europe a enlevé ses frontières, donc, au départ ? Parce qu'on devait gérer le social ensemble. Qu'est-ce qui pose des problèmes en ce moment ? C'est les frontières. Parce qu'il y a des gens qui s'y butent dessus, qui se blessent dessus et qui meurent à cause de ces frontières. Il y a eu 5 gamins qui sont morts sur l'autoroute en voulant passer à la frontière. Et le problème, il est là. De croire que l'Érythrée arrêtera d'être une dictature, que la guerre du Soudan ne fera pas fuir des personnes qui vivent là-bas, parce qu'on met une frontière à 26 000, mais c'est tout. Il n'y a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Au lieu de mettre 3 heures à passer la frontière, ils vont mettre 3 semaines, 1 mois, 2 mois, mais ils arriveront à passer la frontière. Le problème, c'est qu'on casse des gens parce que tout le monde passe. Pas croire.
Alors, vous comprenez pourquoi je vous pose la question ? Parce qu'une des choses qui ont été avancées contre vous par vos adversaires, alors je ne sais plus si c'est Ciotti ou Estrosi, mais qui l'ont dit, ils ont dit Cédric Héroux, il est proche des no-borders. Alors, les no-borders, c'est ce groupe qui avait également été mis en cause par les autorités à Calais, dans l'affaire de la jungle de Calais, groupe à l'existence réelle ou fantasmatique. Personne ne sait vraiment, mais enfin, c'est un groupe dont l'existence a été avancée pour disqualifier un certain nombre d'actions. Vous vous reconnaissez dans l'action ou les thèmes des no-borders ?
Non, mais c'est... C'est les gens qui simplifient tout. C'est les gens en fait qui font des sacs.
Donc il y a des sacs. Je suis désolé, je vous entends dire à bas les frontières. Je me dis no border. Peut-être qu'il y a une correspondance.
Donc je repars à zéro. Et donc ils font des sacs avec sacs migrants, sacs no border. En fait, c'est pour simplifier toute l'histoire. Vous savez, dans Roya Citoyenne, nous avons des avocats, nous avons des retraités, nous avons des jeunes, nous avons des vieux, nous avons des femmes, nous avons des techniciens de surface, nous avons des infirmiers, nous avons des médecins. Donc ça voudrait dire que tous ces gens sont donnés border, parce que c'est beaucoup plus simple à le dire. Non, c'est juste là, nous, on s'occupe, on est des humanitaires avant tout, et on se sert on fait de la politique pour que ces problèmes humanitaires soient réglés. Nous, on n'a pas envie de faire ça pendant 20, 30, 30 ans, 40 ans. Moi, j'ai pas envie de vivre à 50 chez moi pendant une décennie. J'ai envie que les problèmes se règlent et on fait de la politique là-dessus. Nous, on respecte les frontières. Si les frontières respectent les gens, d'abîmer et de tuer des gens avec des frontières, c'est inacceptable en Europe et sur le sol français. Nous, on se bat là-dessus. Après, si moi, personnellement, je suis contre les frontières parce que ça blesse des gens, si l'État veut mettre des frontières, il faut en assumer les conséquences, c'est tout. Après, nos borders, pas nos borders, etc., je ne sais même pas ce que ça veut dire, nos borders, en fait.
Par curiosité, parce que moi, je connais très mal tout ça, c'est un groupe constitué avec lequel vous avez été en contact, ou en contact avec des membres de ce groupe, enfin, ou personnellement ?
Il n'y a plus personne qui se revendique de nos borders, parce qu'en fait, c'est catalogué comme violent. Et nous, on n'est pas violent, on soigne des gens. C'est un peu l'inverse de la violence.
C'est vrai.
Il n'y a plus personne, en fait, qui se déclare être no border, quoi. C'est fini.
On a entendu John Palais parler de votre action. On ne vous a pas entendu, vous, sur l'action de John Palais. Quelle perception en avez-vous ?
Si vous voulez des bureaux, moi, j'en ai besoin.
Lui, c'est les chaises, hein, ce n'est pas les bureaux.
C'est les chaises. Ce qu'il faudrait, je pense, c'est plus virer nos thunes. Moi, je ne l'ai pas fait, hein, mais virer nos thunes de ses comptes en banque. Et je crois que ce serait une action beaucoup plus constructive, je pense. Après, je trouve qu'elle est bien. En fait, c'est un outil médiatique et c'est bien de le faire. Et c'est bien d'alerter. Et puis, après, je ne connais pas, je ne suis pas dans cette action-là, donc c'est un peu dur de juger, de dire. Puis, il a réussi à ce que, enfin, ils ont réussi à ce qu'on en entende parler. Et puis c'est bien, quoi. Et puis c'est des choses simples qui sont non violentes, déjà, ça c'est super. Et voilà, donc c'est très bien sinon. Mais de virer nos thunes sur les comptes en banque, je pense que ce serait la meilleure des solutions.
Ah bah c'est une autre forme d'action qui a été notamment utilisée, qui est beaucoup plus utilisée aux États-Unis, le désinvestissement, le levier financier. On a vu 3 responsables politiques. Il se trouve que dans 48 heures va avoir lieu le deuxième tour de la primaire PS. Je crois que Benoît Hamon devait venir à votre procès, puis finalement, il n'est pas venu.
Il a eu sa représentante qui est venue et il y avait une table ronde, effectivement, qui a été organisée juste avant le procès et là, qui rassemblait des soutiens politiques, notamment des candidats à la présidentielle. Il y avait Yannick Jadot de Europe Écologie Les Verts. Il y avait Poutou aussi. Rappelez-moi son prénom. Philippe, merci beaucoup. Il m'avait échappé à l'instant, du NPA qui était là. Et puis, une représentante également de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Donc, politiquement, vous étiez soutenu.
Vous allez voter à la primaire du PS ?
C'est pas du PS, hein. C'est de la partie de la gauche.
Oui, c'était pour raccourcir.
Je vote, mais non, pas à la primaire du PS, non. Je suis ce qui se passe. Et je me suis un peu posé la question, mais un petit peu trop tardivement. Et du coup, en plus, ça tombait sur des week-ends où j'étais pas chez moi, de toute façon. Je me suis pas organisé pour le faire. Je me suis posé la question trop tard.
Mais si vous aviez pu... Enfin, je veux dire, vous n'auriez pas eu d'opposition de principe à participer à ce scrutin. Donc, on pourrait aussi dire, ça me concerne pas, ça m'intéresse pas, c'est pas là que ça se passe.
Non, ça se passe dans l'action. Et moi, je m'intéresse quand même à ce qui se passe au niveau politique institutionnel. C'est quand même là où il y a encore énormément de leviers d'action, de transformation. Et donc, c'est important de pas lâcher cette partie-là, quoi. La politique, c'est un tout, ça suffit pas, mais faire que des actions citoyennes et laisser faire ce qu'ils veulent aux politiques, je pense que ce sera tout autant dérisoire.
Cédric Héroux, il y a un bureau de vote de la primaire PS à Breil-sur-Royat où vous allez être obligé de descendre à Nice.
Je suis au courant. Bien au courant, je pense, mais je suis pas intéressé trop par les élections.
Oui, voilà. Donc, à la différence de John Palais, vous n'êtes pas intéressé.
Par le Parti Socialiste, pas trop. On verra. Enfin, qui représentera le Parti Socialiste, ça ne m'intéresse pas trop. Et ce n'est pas le bon terme. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais je n'ai pas envie d'y participer. Ouais, j'ai pas envie d'y participer. Après, je m'intéresse à la politique un peu comme tout le monde. Et après, ce que font les socialistes, moi, je ne suis pas un socialiste, donc je ne vais pas voter pour le représentant.
On a tout dit ?
Ouais.
On a tout dit ?
Ben, je crois que oui. Hein.
Bon, on a dit pas mal de choses, en tout cas. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce dialogue tout à fait passionnant. On était vraiment très contents d'avoir réussi à monter. Et à la semaine prochaine.
Merci.